Bienvenue, voici l'accent des autres avec les médias francophones publics, RFI, France Inter, la Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada et la RTBF. Ce sont les grandes lignes de l'actualité francophone, avec d'abord de nouvelles mobilisations pour le climat en Suisse, notamment Pierre Anchoffat, de jeunes militants ont défié les autorités cette semaine à Berne.
Oui, en installant un campement sur la place fédérale, alors que les manifestations sont interdites durant les sessions parlementaires, d'où la colère des députés.
La Commission européenne a présenté son nouveau pacte migratoire cette semaine et au même moment, les arrivées de migrants africains sur les côtes de l'archipel des Canaries atteignent ce mois-ci des niveaux inédits depuis la seconde moitié des années 2000, Amélie Tulé.
Malgré la dangerosité de la traversée, cette route migratoire en sommeil depuis des années est en quelque sorte réactivée car passer par la Turquie, la Libye ou le Maroc est de plus en plus compliqué.
On reparle de la pandémie de Covid au Canada, Benoît Audet. Les Canadiens ont eu droit à deux discours pour le prix d'un cette semaine.
Oui, le traditionnel discours du trône qui marque le début d'une nouvelle session à la Chambre des communes et un discours à la nation du Premier ministre Justin Trudeau.
Et toujours dans le cadre de cette crise sanitaire, Jacques Crémers, la Belgique vient de revoir ses règles sur les avis de voyage.
Se déplacer en zone rouge, même pour un déplacement non essentiel, n'est désormais plus interdit, mais strictement déconseillé. Il s'agit de responsabiliser davantage les Belges.
Enfin, l'hommage unanime à Jacques Chirac cette semaine, un an après la disparition de l'ancien président Éric Delvaux.
Oui, hommage à l'Assemblée nationale en présence des représentants politiques de droite comme de gauche, tous réunis autour de sa fille, Claude Chirac.
La question climatique donc à nouveau au cœur des préoccupations et notamment donc en Suisse, Pierre-An, alors que le Parlement devait traiter de la nouvelle loi sur le CO2, des jeunes militants pour le climat ont installé un campement sous les fenêtres des députés.
Oui, ils espéraient tenir la semaine sur la place fédérale. Au final, leurs tentes seront restées 48 heures. Mercredi, au très petit matin, la police a commencé une lente évacuation en raison de la résistance passive des activistes, mais tout s'est passé dans le calme et sans violence. Des activistes conscients par cette action de
désobéir à la loi pour exprimer à nos politiciens l'urgence d'agir.
Depuis le début du XXe siècle, il est en effet interdit de manifester sur la place fédérale durant les sessions parlementaires.
Voilà, c'est interdit. Alors, question, Pierre-An, comment ont réagi les députés ?
Eh bien, les Verts ont évidemment fait preuve de plus de compréhension, voire de soutien, mais à droite de l'échiquier, c'était la désapprobation, pour ne pas dire la colère contre cette action illégale, tolérée trop longtemps par les autorités de la capitale, le souverainiste de l'UDC, Jean-Luc Adore.
Tolérer une zone de non-droit sous les fenêtres du bâtiment dans lequel siège le Parlement qui doit faire les lois, c'est indigne d'un état de droit, donc enfin, c'est le retour à la normale.
Les Verts de leur côté veulent désormais faire abolir cette interdiction de manifester, leur président Balthazar Gletli.
On s'est toujours battu pour que ça soit possible d'organiser des manifestations durant la session aussi parce qu'on croit à un Parlement qui ne doit pas se cacher devant la population.
L'intervention parlementaire a toutefois peu de chances d'aboutir. La majorité des députés goûtent un peu cette potentielle pression de la rue durant leurs travaux.
L'accent des autres.
C'est une situation qui n'avait pas été observée depuis plus de 10 ans sur l'archipel espagnol des Canaries. Pendant la première quinzaine du mois de septembre, jusqu'à 300 migrants africains arrivaient chaque jour, Amélie, à bord d'embarcations de fortune.
Selon la Croix-Rouge espagnole, les traversées vers les Canaries reprennent à des niveaux comparables à ce qui se passait entre 2006 et 2008. À l'époque, cette route migratoire vers l'Europe a été empruntée par des dizaines de milliers de personnes. Une route dangereuse, les côtes du Maroc sont à une centaine de kilomètres, mais beaucoup prennent la mer du Sénégal ou de la Gambie, soit plus de 1000 kilomètres à parcourir le long de la côte atlantique. Selon l'OIM, plus de 5000 migrants africains ont atteint l'archipel depuis le début de l'année. Plus de 250 personnes sont mortes en mer.
Alors Amélie, pourquoi cette reprise finalement des traversées vers les Canaries ?
Après les années 2000, l'émigration vers l'Europe passait plutôt par la Méditerranée, au départ de la Libye, du Maroc et de la Turquie. Mais il y a un an, l'Union européenne a passé des accords avec ces trois pays pour renforcer le contrôle des frontières. Les passages sont devenus très difficiles, d'où ce report sur la route des Canaries malgré sa dangerosité.
Oui, à ce propos, on notera que la Commission européenne a présenté cette semaine son nouveau pacte migratoire. L'idée de base, en deux mots, c'est une solidarité obligatoire entre États membres, mais à la carte. Concrètement, chaque pays devrait choisir soit de relocaliser des demandeurs d'asile, soit de parrainer des opérations de retour pour ceux qui ne peuvent pas rester en Europe, ou encore d'aider dans des opérations logistiques. L'Union veut éviter de reproduire le fiasco des relocalisations obligatoires. Les États membres et le Parlement européen doivent encore approuver cette réforme. Une réforme d'ailleurs que la Suisse suit de très près, Pierre, même si elle n'est pas membre de l'Union européenne.
Oui, car la Suisse est membre associé de l'espace Schengen et donc partenaire de l'accord de Dublin sur l'asile. La ministre en charge des questions migratoires, Karin Keller-Sutter, a immédiatement salué les propositions de la Commission. Elles vont dans le sens de ce que souhaite notre pays, soit un système plus équitable de répartition qui ne laisse plus des pays comme la Grèce et l'Italie seuls face à l'arrivée des migrants aux frontières extérieures de l'Union. La Suisse se dit prête en tout cas à participer activement aux négociations à venir.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Au Canada, à présent, c'est encore la crise sanitaire qui est au cœur des préoccupations des gouvernements. À Ottawa, le gouvernement a présenté son discours du trône. Il détaille les priorités de la nouvelle session parlementaire, mais le Premier ministre Justin Trudeau a poussé l'exercice plus loin. Il a prononcé un discours à la nation quelques heures après la présentation du discours du trône par la gouverneure générale. Benoît Audet, manifestement, le Premier ministre avait un message à faire passer.
Oui, essentiellement, il a voulu rappeler que la lutte contre la COVID-19 est loin d'être terminée et que l'automne pourrait être bien pire que le printemps si les Canadiens ne redoublent pas d'efforts pour ralentir la progression du virus. Son but était de convaincre la population de ne pas baisser la garde. On l'écoute.
Limitez votre cercle social. Évitez de prendre des risques qui sont pas nécessaires. C'est pas le temps de faire des parties. Personne n'est invincible et vos proches ne le sont pas non plus.
Voilà donc le Premier ministre Justin Trudeau. Et donc un petit peu plus tôt, on le disait, Benoît, le gouvernement avait présenté son plan pour tenter d'aider les Canadiens à passer à travers cette crise.
Oui, dans le discours du trône, le gouvernement a promis des investissements dans le domaine de la santé, dans l'aide aux entreprises. On s'est aussi engagé à créer 1 million d'emplois pour regagner ceux perdus pendant la pandémie. Ce plan ambitieux a été rejeté par l'opposition conservatrice qui a promis de voter contre le discours du trône. La survie du gouvernement Trudeau tient essentiellement à un autre parti d'opposition, le Nouveau Parti démocratique. La plupart des observateurs s'attendent à ce qu'il obtienne des concessions, ce qui permettrait d'assurer au gouvernement de se maintenir au pouvoir et d'éviter aux Canadiens de se rendre aux urnes à l'automne.
Et on va rester sur le terrain de la crise sanitaire, mais en Belgique cette fois, les autorités décident de revoir un peu certaines contraintes liées à la pandémie, le port du masque moins strict, la quarantaine raccourcie notamment. Il s'agit en réalité de responsabiliser davantage les Belges. C'est dans ce cadre aussi, Jacques, que les règles changent pour ceux qui voudraient voyager.
La Belgique revoit les règles sur les avis de voyage. Se déplacer en zone rouge, même pour un déplacement non essentiel, n'est désormais plus interdit, mais strictement déconseillé. C'est entré en vigueur ce vendredi. Le tourisme peut donc reprendre, théoriquement, en tout cas, plus de contrôle, plus de risque d'amende. Cela dit, ça dépend évidemment aussi des destinations, parce que certains pays ne veulent toujours pas voir de touristes belges. L'objectif, c'est d'aller vers une harmonisation des règles et de responsabiliser davantage les Belges, comme l'affirme le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin.
Le réflexe numéro un maintenant, c'est d'aller voir les avis de voyage et de se poser la question de savoir est-ce que oui ou non je fais le choix d'aller en zone rouge alors que c'est fortement déconseillé. On rappelle que les conseils sanitaires touchent tout le monde. Ils touchent d'abord soi-même, sa famille, ses proches, ses amis, ses collègues de travail. Et donc il ne s'agit absolument pas de finalement relâcher l'effort ni relâcher l'attention. Mais quand on plaide pour plus d'Europe et de coordination, on doit aussi accepter d'adapter nos propres règles par rapport à l'ensemble des pays européens.
Une meilleure coordination voulue par les autorités belges. Cela dit, ça reste tout de même encore flou sur une série de questions. Les Européens ne parlent toujours pas d'une seule voix, mais la Belgique était le dernier pays européen à appliquer des sanctions en cas de voyage vers une zone rouge. C'est donc terminé. Pour autant, quarantaine et dépistage restent obligatoires au retour.
Oui, à propos de quarantaine précisément, Pierre-Han, 2500 étudiants d'une même école suisse ont été placés en quarantaine cette semaine.
Oui, soit 3/4 des étudiants de l'école hôtelière de Lausanne. Un foyer Covid a en effet été identifié sur le campus de cette école réputée à l'international, 10 cas positifs. Les services du médecin cantonal se sont vite rendus compte qu'ils ne parviendraient pas à retracer la chaîne de transmission en raison de plusieurs fêtes privées organisées les jours précédents par les étudiants. Faute de pouvoir cibler, eh bien les autorités ont placé toute la volée de bachelors en quarantaine.
On va se quitter cette semaine en France avec un hommage à un ancien président de la République, Jacques Chirac, décédé il y a tout juste un an, c'était le 26 septembre 2019. L'Assemblée nationale s'est souvenue ce mercredi de l'homme politique et puis de l'homme tout court aussi. Élodie Forêt a suivi cet hommage pour France Inter.
Un hommage aux airs de grandes réunions de famille autour de Claude Chirac, le gratin politique, tous venus écouter le discours émouvant du président de l'Assemblée, Richard Ferrand, qui a retracé les 1000 vies de Jacques Chirac.
Depuis plus d'un demi-siècle, il faisait partie de notre vie politique. Avec lui, nous avons connu la République à grandes enjambées, qui virevoltait de coups de gueule en coups de théâtre, de dissolution en retournement électoral.
Hommage au député qui a su conquérir la Corrèze, au secrétaire d'État à l'emploi en 68, les nerfs solides, au ministre de l'Agriculture, entrée dit Richard Ferrand dans la légende.
Un ministre au grand air qui, entre deux dégustations, prend en permanence le pouls de la nation.
Hommage aussi à celui qui sut peut-être déjà à l'époque dépasser les clivages, Hugues Ranson, chiraquien, désormais député En Marche.
Lorsqu'en 1981, il apporte sa voix et sa contribution à l'abolition de la peine de mort, lorsqu'il met la charte de l'environnement dans la Constitution, c'est des combats qui, au fond, sont très actuels et c'est aussi cette contemporanéité du message de Jacques Chirac qu'on célébrait ce matin.
Un message porté ce matin par une classe politique pour une fois à l'unisson. Tout le monde a été, est ou sera chiraquien, a même osé, Richard Ferrand.
Voilà, c'était donc ce mercredi, reportage d'Élodie Forêt à l'Assemblée nationale à Paris. Merci à tous, c'était votre rendez-vous avec l'accent des autres, les grandes lignes de l'actualité francophone, avec les médias francophones publics, RFI, Radio-Canada, la radio-télévision suisse, la RTBF et France Inter. Excellente fin de semaine, l'accent des autres revient la semaine prochaine.